autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur le sort des scientifiques, des chercheurs et des intellectuels forcés à l'exil. Oui, à l'exil, menacés par les conflits en Syrie ou au Yémen, cibles de régimes totalitaires en Turquie, victimes collatérales des crises au Venezuela, au Burundi ou ailleurs. Comment accueillir et intégrer ces chercheurs et ces chercheuses en danger? Comment leur permettre de revivre et de poursuivre leurs recherches? Bilan d'étape du programme PAUSE, programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, lancé en France en janvier 2017, en compagnie de nos invités, le linguiste syrien Mohamad Al-Sadan, la sociologue Liora Israël et la directrice exécutive du programme PAUSE, Laura Loéac, autour de la question « Quel accueil pour les scientifiques forcés à l'exil et pourquoi il y a urgence encore et toujours ?» C'est le professeur Alain Prochian, administrateur du Collège de France, à l'origine de ce programme PAUSE, qui nous le rappelait ici même à l'automne 2017.
Il y a toujours urgence. Enfin, si vous ouvrez les journaux, regardez la situation géopolitique pour voir qu'il y a urgence dans plusieurs pays. La Syrie, bien entendu, la Turquie, mais aussi le Yémen, éventuellement d'autres régions que je ne voudrais pas citer comme ça. Ça, c'est la première urgence qui est permanente, parce que la situation géopolitique est rarement homogène, calme sur le globe. Et une deuxième urgence, je crois, qui est importante, c'était de créer un système d'accueil en France, d'autant plus que c'est un manque que depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y avait eu des comités qui s'étaient créés entre les deux guerres. D'ailleurs aussi, le Collège de France avait aussi joué un rôle important. Et donc, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil est fait pour durer.
Comment, pourquoi, pour qui et avec quels moyens? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. Bonjour, Mohamad Al-Sadan.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous en direct en studio. Vous êtes linguiste, professeur de français et d'arabe, traducteur et interprète. Vous étiez enseignant-chercheur à l'université de Homs, en Syrie. Contraint à l'exil, vous êtes aujourd'hui, grâce au programme PAUSE, chercheur associé à l'université de Montpellier, où vous menez d'ailleurs vos recherches avec et sur la langue même des réfugiés syriens. Le chercheur que vous êtes peut donc redonner la parole grâce précisément au fait que vous êtes vous-même exilés, réfugiés et lauréats, comme on dit, de ce programme PAUSE, Mohamad.
Alors, tout à fait. Merci Caroline pour cet accueil. Je suis ravi vraiment d'être là avec vous sur RFI. Et oui, comme vous le dites, donc, j'étais contraint à l'exil forcé, parce qu'à l'époque, j'aimerais bien rappeler aussi un petit parcours rapidement. J'étais déjà venu en France entre 2003 et 2009, où j'avais fait mes études supérieures à l'université de Paul Valéry Montpellier III. Fin 2009, j'ai soutenu ma thèse, je suis reparti chez moi où j'avais un poste là-bas
en
à l'université,
Syrie.
En Syrie, tout à fait.
Sans imaginer que
J'ai jamais pensé que ça puisse m'arriver un de ces jours ou arriver vraiment donc à mon pays. Mais bon, voilà, la situation donc, a basculé, donc aujourd'hui, voilà, donc, on en est aujourd'hui. Et donc je suis resté pendant 6 ans et quelques, et je ne voulais pas sortir. Je vous le dis vraiment, honnêtement, au départ, je ne voulais pas quitter le pays. Mais au bout d'un moment, il y avait vraiment donc, une situation très difficile, des menaces et autres. J'ai perdu beaucoup de collègues, certains ont été enlevés, toujours pas de nouvelles. Et après, donc je me suis dit peut-être c'était mon tour. Voilà. Parce que bon, c'est compliqué aussi en Syrie. Donc je viens d'une région qui a une coloration différente. En termes de religion, alors que je travaillais dans une ville qui était d'une autre coloration, on va dire. Et là, j'étais harcelé, j'ai été menacé, on va le dire comme ça. Et après, si vraiment on ne trouve pas de solution, il fallait se sauver au bout d'un moment. Donc, voilà.
Et vous vous êtes sauvé, vous avez été accueilli grâce au programme PAUSE dans votre université
d'origine,
si j'ose dire,
tout à fait.
C'est ça, et c'est
alors,
vous qui
oui,
l'avez trouvé,
oui,
cet
absolument.
Accueil universitaire.
Voilà, je rappelle que j'avais gardé des relations professionnelles et amicales avec mes amis et anciens professeurs de l'université de Paul Valéry, qui ont beaucoup fait aussi pour que je puisse revenir en France. J'ai d'abord rejoint la Turquie. J'avais déposé un dossier auprès de l'ambassade de France à Ankara. Et là, j'ai repris contact avec tous mes collègues qui ont été mobilisés en France.
Lauréat du programme PAUSE, aujourd'hui on va y revenir, à vous donner la parole aux réfugiés syriens, puisque vous êtes entre français et arabe et que vous pouvez recueillir leurs paroles dans leur propre langue. Bonjour Laura Loéac.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice exécutive de ce programme PAUSE, d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil. Plus d'un an après son lancement, où en est ce programme? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan?
Alors effectivement, le programme PAUSE est un jeune programme, mais un programme très innovant et qui a suscité une mobilisation massive à la fois des pouvoirs publics. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est à l'origine de ce programme, mais un certain nombre de ministères, Affaires étrangères, Intérieur, Culture y participent.
L'ensemble Quelle que soit la couleur du gouvernement.
Quelle que soit la couleur du gouvernement, puisque c'est le précédent gouvernement qui l'a lancé, et le soutien du gouvernement actuel a été confirmé, y compris par le président de la République. Donc on a ce soutien politique, on a un soutien massif de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, les principaux organismes de recherche, mais bien sûr et avant tout les établissements de recherche qui accueillent les candidats, puisqu'il s'agit... Le programme PAUSE, en fait, accorde des subventions aux établissements qui accueillent des scientifiques en danger. Donc cette mobilisation, c'était un pari, puisque à l'origine du programme, on ne savait pas si le programme serait suivi, puisque c'est du cofinancement. Donc le programme assure 60% et les établissements 40%. Et les établissements étaient en rendez-vous, puisque plus de 60 établissements dans toute la France accueillent des lauréats PAUSE.
Aujourd'hui, il y en a combien des lauréats?
Alors, 140 chercheurs ont bénéficié ou bénéficient actuellement du programme.
Et ils viennent de quel pays? De
Alors,
Syrie comme
Ils viennent pour beaucoup de Syrie, bien sûr, de Turquie, puisque le programme s'est créé au moment où les purges massives se sont provoquées par le régime turc, mais aussi des Yéménites, des Irakiens, le Venezuela, le Burundi, comme vous disiez, Afghanistan, Pakistan, les pays en crise ont des candidats au programme.
Léora Israël, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, on peut dire que c'est un peu, que c'est votre rapport, commandé à l'époque par l'ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Thierry Mandon, qui a été à l'origine du programme PAUSE. Il s'agissait, le professeur Alain Prochian le rappelait, de renouer au fond avec une solidarité qui a existé en France dans l'entre-deux-guerres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'accueil, la solidarité avec les chercheurs contraints, forcés à l'exil.
Alors oui, effectivement, il s'agissait de renouer avec une tradition qu'on a un peu redécouverte d'ailleurs en travaillant sur le programme, notamment le nom de Louis Rapkin qui avait créé en 36 sous le Front Populaire un dispositif comparable destiné à accueillir des chercheurs, qui, notamment juifs, qui fuyaient le nazisme. Mais il s'agissait aussi de prolonger des programmes qui ont émergé dans plusieurs institutions en France à l'automne 2015 et qui visaient à accueillir des étudiants exilés. Et c'est d'ailleurs parce qu'à l'EHESS, j'avais contribué à monter un tel programme que Thierry Mandon,
l'école des hautes études,
dans mon institution, que Thierry Mandon, confronté, donc qui était le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, confronté à la difficulté rencontrée par différents collègues, notamment archéologues, pour faire venir, pour accueillir des chercheurs en exil, avait pensé qu'on pouvait construire un peu sur cette première réflexion, ou ce premier bricolage qui avait été fait au jour le jour pour les étudiants, pour aller plus loin. Donc on a étendu aux doctorants et aussi aux chercheurs qui pouvaient avoir besoin de venir
sur le modèle de ce qui existe d'ailleurs, alors aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. En France, il n'y avait plus d'organismes ou de programmes de cette sorte, mais ça existe ailleurs. Ceci dit, ailleurs, c'est sur des fonds privés.
Alors, ailleurs, il peut y avoir des financements des institutions d'enseignement supérieur de recherche, mais effectivement, ce sont des fondations qui portent la plupart du temps les dispositifs existants. Et donc, il a fallu effectivement regarder comment ça se passait, à la fois pour réfléchir à une forme de financement qui corresponde mieux à la spécificité française dans laquelle les fondations n'ont pas le pouvoir qu'elles ont notamment aux États-Unis. Mais il fallait aussi réfléchir à la manière de construire des dispositifs opérationnels assez vite.
C'est-à-dire que en urgence,
il y avait un timing qui était très court, pour le dire clairement, on m'a missionné au mois de mai, au mois de juin de l'année suivante, il y avait une élection présidentielle, et donc il fallait construire quelque chose en un an si on voulait pouvoir construire quelque chose.
Et aujourd'hui, force est de constater que c'est construit, que ça fonctionne. Alors ça soulève de nouvelles questions, mais aujourd'hui ça fonctionne, hein, autour de la question comment accueillir ici en France donc des chercheurs en danger, des aventuriers du savoir, pour reprendre l'expression de l'historien Patrick Boucheron. Je vois que les aventuriers du savoir, Mohamed, ça vous parle. Comment sauver des idées incarnées par des hommes et des femmes empêchés d'enseigner et d'apprendre? Vous en avez parlé, Laura Loéac, comme c'est le cas en Turquie actuellement. Extrait d'un reportage diffusé sur France Info.
Les amis, notre cours va commencer.
Un amphithéâtre en plein air à Ankara, une centaine d'étudiants dans le froid de l'hiver. Pour venir écouter leur professeur, pas le choix, c'est dehors que ça se passe. Cette enseignante en communication a été limogée début janvier pour avoir signé une pétition appelant à la paix entre l'armée turque et la rébellion kurde. Depuis, elle enseigne bénévolement, c'est sa façon de résister.
J'ai ressenti de la colère, une colère saine qui m'a fait du bien. Car nous sommes face à un limogeage véritablement injuste, illégal, sans aucun fondement. C'est le signal qu'une liquidation effrayante de toute opposition démocratique ou de gauche va se poursuivre.
Comme elle, des milliers de professeurs ont été démis de leurs fonctions au cours des purges qui ont suivi le coup d'État avorté du 15 juillet dernier en Turquie. Encore début février, 330 autres universitaires ont été limogés sans aucune forme de procès. Des rassemblements s'organisent dans le pays, comme ici à Istanbul.
Ils cherchent quasiment à vider les universités. Et nous essayons, dans la mesure du possible, de lutter, de rendre public, d'observer la légalité de tout cela. Tôt ou tard, nous retournerons dans nos établissements. Ces universités ne sont pas celles de l'AKP, elles appartiennent au peuple.
Et dans les rangs des étudiants, le maître mot, c'est la solidarité.
On nous a confisqué notre droit à l'éducation, à une formation. C'est un processus effrayant. C'est comme si on versait du béton sur notre école. Mais on continue à avoir confiance en une chose, c'est que nos enseignants vont tous revenir. Notre professeur, Madame Sevilay, nous a appris que l'espoir est une pensée politique.
En tout, depuis le coup d'État avorté contre le président Erdogan, 100 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi et 43 000 personnes ont été emprisonnées.
Témoignage effrayant de ces étudiants universitaires, chercheurs, intellectuels turcs qui sont particulièrement menacés dans la ligne de mire du pouvoir. Alors certaines ont pu bénéficier de ce programme PAUSE, d'accueil en urgence des scientifiques en exil pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi parce que ces chercheurs ou chercheuses espèrent revenir en Turquie. Aucune d'entre eux n'a pu témoigner. Laura Israël, est-ce que vous pourriez en quelque sorte leur servir de porte-parole?
Alors, je ne sais pas si je peux prétendre parler à leur place, mais je pense qu'il faut souligner effectivement la place considérable qu'ont pris ces intellectuels et collègues turcs, aussi parce que, comme dans le cas de Mohamed, il y avait des échanges forts entre les institutions françaises et les institutions turques depuis très longtemps. Il y a des collaborations très importantes, comme c'était le cas en Syrie, historiquement. Et donc, c'est aussi souvent d'anciens étudiants que nous sommes amenés à accueillir, ou bien des collègues qu'on connaît quand même très bien, parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'échanges, notamment en sciences sociales, en sociologie, il y a vraiment des traditions.
Et qui font appel directement à vous? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on candidate à ce programme PAUSE quand on est menacé, en danger?
Alors, il y a deux façons, effectivement, de candidater. La première, comme Mohamed l'a fait, c'est-à-dire de pouvoir réactiver des réseaux de solidarité. Et c'est le cas, effectivement, de nombreux lauréats, et en particulier syriens, parce que beaucoup avaient fait leurs études en France. L'autre façon de pouvoir candidater au programme, c'est de s'inscrire sur une plateforme, la plateforme qui est sur notre site Internet. Et cette inscription ne vaut pas candidature, puisque ce sont les établissements qui candidatent, mais les chercheurs qui s'inscrivent sur cette plateforme sont accompagnés par l'équipe du programme et on essaie de chercher des établissements qui pourraient être intéressés par leur profil. Donc on se mobilise beaucoup pour ces chercheurs et essayer de leur trouver des établissements d'accueil, même si effectivement c'est du un peu plus long terme.
Et puis c'est pas évident, Mohamed, vous travaillez entre français et arabe, professeur de français et d'arabe, donc vous n'avez pas de soucis, si j'ose dire, malgré votre exil, pour travailler ici en France. Mais ce n'est pas évident pour d'autres d'être lauréat de ce programme POSE. Vous êtes linguiste, Mohamad, sur ce mot de lauréat quand on est exilé. Qu'est-ce que vous emploierez comme mot ? Exilé, déplacé, réfugié ? Parce qu'il y a beaucoup de cas de figure. Hein. Mohamad ?
Oui, alors justement, à ce propos, par rapport au projet que je mène actuellement, dans le cadre des travaux conduits au laboratoire de linguistique à Paul Valéry, le projet que je fais, il est lié au vécu et aux expériences des réfugiés syriens en France. Et justement, je pars de là. La question, je peux y répondre de cette façon, c'est que quand je pose la question aux intéressés, ils réagissent différemment. Parce que chacun d'eux, vraiment, se voit... se définit, se nomme, s'autonome, se désigne de la façon qui lui paraît la plus adaptée peut-être à son expérience propre, à cette réalité migratoire. Souvent les gens, ils se désignent comme étant réfugiés. Mais pour revenir à votre question aussi par rapport à l'arabe et au français, c'est que parfois les termes ne disent pas la même chose. Donc j'ai choisi de donner la parole aux interviewés syriens, mais chacun dans son propre dialecte à lui, pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il puisse vraiment s'exprimer librement et aisément, étant donné les nuances et les subtilités linguistiques dans les deux langues. Donc dans leur propre dialecte à eux, ils sont vraiment très à l'aise là-dessus.
Ils ne sont pas exilés dans une autre langue, hein,
voyez,
quand ils
témoignent. Moi, je leur dis vraiment comment vous vous nommez, comment vous vous considérez aujourd'hui. Et souvent, cette question intervient à la fin de l'interview et pas vraiment au début. Alors, il y en a qui le disent dès le début, peut-être au milieu de l'interview, mais vraiment, donc moi, je laisse la question à poser à la fin. Et quand je leur dis en arabe syrien, c'est pas un arabe littéraire non plus. Et là, souvent ils disent réfugiés, mais certains disent vraiment être exilés. D'autres, ils se disent syriens.
Et c'est leur définition. Léora, voilà. Israël, vous vouliez réagir aussi là-dessus, sur cette question aussi du statut, du mot, de la manière dont on se considère. On est exilé, on est réfugié, on est déplacé, on est en attente d'eux, on est...
Absolument, je pense que le lexique est très important. Et effectivement, il y a eu un déplacement. Dans la lettre de mission de Thierry Mandon, je devais réfléchir à un programme sur les chercheurs réfugiés. Et ça a été un déplacement important de dire non, parce que réfugiés, ça veut dire un, qui sont déjà là, et deux, qui demandent un statut, qui est un statut juridique, qui implique le fait de décider de s'inscrire durablement en France. Alors que là, d'une part... Pour partie, les candidats sont encore dans leur pays d'origine et c'est toute une partie du travail considérable du programme que parfois de les faire venir.
Parfois les exfiltrer, carrément.
Voilà.
Hein.
Et deuxièmement, ils ne veulent pas forcément l'étiquette de réfugié parce qu'ils veulent revenir très souvent. Hein. Ils ne font pas le deuil du retour au pays d'origine, même si c'est très douloureux de ne pas savoir du tout quand ils pourront revenir. Donc c'est très important pour eux de ne pas être sur un statut. Et ils sont d'ailleurs sur des statuts de chercheurs, qui sont des statuts qui leur permettent d'être ici en tant qu'officiellement professeur invité, chercheur invité, post-doctorant, et donc aussi de pouvoir garder, quand c'est possible, une certaine mobilité avec le pays d'origine.
Hommage à cette communauté de chercheurs et chercheuses turques sur RFI, on écoute la voix hypnotique de Sigdem Aslan, chanteuse de Rebetiko, extrait de son second album, A Thousand Cranes, un millier de grues, ces oiseaux migratoires qui peuplent les légendes anatoliennes, grecques et balkaniques.
Ζάιρα θα έρθω να σε κλέψω κάποια βράδια απ' την αγκαλιά του μαχαράγια. Σβήνω απ' τον ποθό, μάλλον σαν σε νιώθω, αχ Ζάιρα μου γλυκιά. Σβήνω απ' τον ποθό, μάλλον σαν σε νιώθω, αχ Ζάιρα μου γλυκιά. Για λελε λι, για λελε λι, για λελε λι. Σβήνω απ' τον ποθό, μάλλον σαν σε νιώθω, αχ Ζάιρα μου γλυκιά. Thank you. γκρεμίσω, μα δεν θα σ' αφήσω σκλάβα του Μαχαραγιά. Κι άστρα θα γκρεμίσω, μα δεν θα σ' αφήσω σκλάβα του Μαχαραγιά.
Sigdem Aslan, oiseau migrateur de Turquie sur RFI, autour de la question quel accueil pour les chercheurs forcés à l'exil. Nous faisons le point sur le programme national PAUSE d'accueil en urgence des scientifiques en exil, avec ce nouvel éclairage de l'éminent physicien Édouard Brézin, très engagé dans ce programme et pour cause. Il a lui-même été accueilli, recueilli pendant la Deuxième Guerre mondiale par des justes en France. On l'écoute au micro de Raphaël Constant.
Le problème principal, c'est la suite de pause. Maintenant que nous avons plus d'un an d'expérience, nous avons vu que, au bout d'un an, le nombre de ceux qui ont réussi à s'intégrer est minime. Beaucoup d'entre eux espèrent, je les comprends, reprendre une carrière universitaire ou de chercheur lorsqu'ils arrivent en France. C'est extraordinairement difficile. Le nombre de gens qui postulent à des postes universitaires ou à des postes de chercheurs au CNRS, par exemple, est considérable. Au CNRS, il doit y avoir une vingtaine de candidats par poste, et les gens qui arrivent n'ont pas un dossier de recherche au niveau de ceux qui postulent. Néanmoins, beaucoup d'entre eux ont des formations très solides qui leur permettent d'espérer trouver un emploi dans les entreprises, dans le monde industriel. Dans l'immédiat, les moyens dont dispose PAUSE permettent d'aller au-delà de ce qui avait été promis initialement, ce qui était une année non renouvelable. Donc un certain nombre de personnes, c'est ce qu'on a examiné à la session précédente, seront renouvelées pour une deuxième année. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, même au bout de deux ans, ces gens ne seront pas fixés dans la recherche publique. Et là, nous avons besoin du monde industriel, du monde des entreprises. Ça me semble être le défi principal qui est devant nous, d'aider ces gens. Ces scientifiques qui arrivent ont des familles. Donc il y a des situations sociales qui sont très sévères et très difficiles à prendre en compte. Voilà.
Alors comment les aider à s'intégrer, c'est la grande question aujourd'hui, Laura Loéac, pour ce programme PAUSE, la question du financement, la question de la durée.
Oui, effectivement, Édouard Brézin l'a très bien souligné, c'est au terme de la première année du programme, ça a été le constat que tout le monde a tiré, comment faire pour ces chercheurs l'après-pause, parce que l'idée du programme, c'était de remettre le pied à l'étrier des chercheurs, mais remettre le pied à l'étrier, ça ne suffit pas, et il faut aussi les accompagner dans l'après. C'est ce que nous allons faire, c'est dans les prochains mois, puisque effectivement, le programme a pu bénéficier d'un financement européen.
Parce que c'est ça le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre, il faut le dire.
D'avoir du financement, bien sûr.
C'est ça, donc ce financement qui est très substantiel permet de développer de nouvelles missions et d'aller au-delà de la mission initiale qui nous avait été confiée.
C'est plus seulement l'accueil aux chercheurs en exil. Parfois, on ne va pas rentrer dans les détails, l'exfiltration de certains pays pour soutenir ces chercheurs, mais c'est aussi maintenant permettre de renouveler cet accueil et de l'ouvrir plus largement. C'est ça,
c'est ça. C'est accompagner les chercheurs, effectivement renouveler. On a eu 25 renouvellements là, depuis le début de l'année. Mais de toute façon, au terme de la deuxième année, on sait bien que le problème reste le même. Il faut se stabiliser professionnellement. Donc le programme va développer un certain nombre d'activités, ce qu'on appelle un parcours d'accompagnement, où on pourra mettre les chercheurs en lien effectivement avec des acteurs du secteur privé, les accompagner dans leur recherche d'emploi, y compris hors du circuit académique, puisque comme le disait Édouard Brézin, les débouchés sont limités.
Mohamed Al-Saddan, j'aimerais bien avoir votre expérience là-dessus. On l'a dit, vous êtes professeur de français, professeur d'arabe, vous avez... mais quand même pour vous, j'imagine que cet exil n'est pas simple du tout. Quelles sont les plus grandes questions que vous posez, les plus grands problèmes, et comment est-ce que PAUSE peut vous aider, jusqu'où
Alors voilà, toujours, oui, pas du tout. Donc ça n'a jamais été facile, c'est toujours dur et c'est un grand défi d'ailleurs, donc l'exil. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai jamais pensé que ça puisse m'arriver. Donc aujourd'hui, je le vis, je suis là-dedans. Et bien toujours, je pars du projet que je fais et des interviews que j'ai réalisées auprès des gens, des Syriens concernés. Eh bien, les gens, quand on parle, quand on évoque la question de l'intégration, ils répondent en parlant du travail. Ils veulent, pour eux vraiment, c'est la clé d'accès ou d'accéder au marché du travail. Si on trouve un travail, on peut s'intégrer facilement.
Parce qu'il y a la question de l'intégration pour ces chercheurs, pour ces intellectuels, mais il faut aussi s'habituer au mode de vie, à une société qui n'est pas la même,
absolument.
À des possibilités, que même des postes de recherche qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut avoir dans son propre pays.
Absolument, non, mais tout est différent, mais c'est vrai qu'alors, parfois je fais la différence entre vraiment les chercheurs syriens que j'ai interviewés, qui sont francophones, qui étaient déjà peut-être en France ou qui parlent français, qui ont une idée de ce que c'est que la France ou l'Europe, alors que d'autres, ils n'ont jamais été en Europe. Donc voilà, ce n'est pas pareil. Donc vraiment, leur réaction, leur point de vue, même par rapport à la question tout à l'heure qui a été soulevée par rapport à la nomination personnelle. Donc vraiment, ça dépend de chaque personne, comment il se voit, comment il voit aussi l'avenir, comment il a envie de se reconstruire. Et quand on est en famille, l'enjeu, encore, il est beaucoup plus vraiment difficile. Donc, de ce point de vue-là, alors en termes d'intégration, et puis toujours l'après, l'après-accueil, c'est vraiment quelque chose. Je suis reconnaissant, on est reconnaissant, c'est vrai, c'est une action vraiment donc, très solidaire et hautement humaine. Mais après, qu'est-ce qu'on va devenir ?
Il y a quand même cette question-là qui doit être là.
C'est toujours vraiment préoccupation majeure. Et ça me travaille, je vais dire, tous les jours. Là, maintenant, où je vous parle, dans un mois, vraiment, donc mon contrat, il sera fini, par exemple, à l'université. J'ai cherché à droite et à gauche, j'ai essayé de candidater, de postuler, mais bon, toujours, il n'y a pas de perspective pour l'instant. Bah, je comprends aussi, on vit tous une situation difficile de ce côté-là. Il faut s'en remettre patience, mais aussi, à un moment donné, donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Et après, surtout vraiment quand on est père de famille, il faut assurer, il faut assumer.
En entendant Mohamed, on se dit que vous parlez parfaitement le français, donc vous êtes absolument, vous êtes utile ici, si j'ose dire, et c'est que ce mot utile, mais extrêmement utile, en plus pour nous faire passer la parole des autres réfugiés. On se dit, qu'en est-il de chercheurs qui travaillent sur des domaines plus pointus, qui ne possèdent pas la langue à ce point-là? En sciences humaines, c'est peut-être plus compliqué aussi quand on ne possède pas la langue en Israël.
Alors c'est vrai que la manière dont on a conçu tout ça, dont on a vu conceptualiser l'accueil a changé. Disons qu'au début, notamment parce que la question a été beaucoup posée en ce qui concernait les archéologues syriens, l'idée c'était de les protéger comme aussi ils possédaient quelque chose d'un patrimoine qui était en train de disparaître. Hein.
Donc il fallait sauver aussi cette mémoire. Et sauver le patrimoine et la mémoire syrienne.
Absolument. Et puis ensuite on s'est dit, bon, il faut aussi leur permettre de rester chercheurs. Parce qu'il faut les protéger parce qu'on est dans une urgence. Il faut sauver leur vie. Voilà. Donc l'idée c'était quand même de les faire venir et de leur permettre de rester dans une démarche de vie scientifique pour actualiser, parce que la vie scientifique, si on en sort, c'est très difficile d'y revenir. Il y a une nécessaire actualisation continue des savoirs. Donc ça a été vraiment ça la priorité. Et c'est vrai que maintenant on se rend compte, enfin, on avait à l'idée, mais que ce sont des personnes, ce sont des familles qui sont venues, évidemment. Et donc c'est un processus d'intégration aussi plus global, parce que malheureusement ce sont des situations de crise qui durent. Hein, donc le retour dans le pays d'origine, il n'est pas d'actualité pour la plupart des personnes qu'on a accueillies déjà il y a un an. Hein. C'est pas possible aujourd'hui qu'ils reviennent. Et donc c'est pour ça qu'on doit effectivement repenser plus largement, pas seulement sauver la science et des idées, mais sauver ou intégrer les hommes et les femmes qui les portent.
Alors comment intégrer justement les femmes qui portent la science, le patrimoine sonore du Yémen? Laura Loéac, vous nous avez fait passer une archive sonore sauvée du Yémen par la chercheuse Fatima Al-Zawiya, l'une des lauréates de Pause. On l'écoute. Magnifique archive sonore sortie in extremis du Yémen par la chercheuse Fatima Al-Zawiya. Elle est aujourd'hui accueillie par l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à l'Université d'Aix-Marseille. Racontez-nous un peu son histoire, Laura Loéac.
Oui, Fatima, et cet exemple dont on parlait d'une femme yéménite qui ne parle pas le français, qui ne parle pas l'anglais, qui s'exprime en arabe. Elle a quitté le Yémen en 2015 parce qu'elle a été persécutée à la fois par les forces du régime et par les islamistes, parce qu'elle était femme, parce qu'elle était chercheuse, parce qu'elle essayait de conserver ce patrimoine immatériel yéménite dont on a entendu une archive.
Elle a vraiment recueilli ce patrimoine, elle l'a ramené. Il y a aujourd'hui une banque sonore qui existe grâce à elle et donc grâce au programme POSE.
Elle a recueilli 13 000 archives sonores et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été persécutée. Hein. Sa fondation, la fondation qu'elle avait créée, a été détruite et c'est à ce moment-là qu'elle a quitté le Yémen. Et justement, c'est cet exemple de transmission de laboratoire de solidarité transnationale qu'est POSE, puisque Fatima est venue en France avec ses archives sonores, mais dans l'idée, effectivement, avec la vision que la France est un sanctuaire, mais avec l'objectif de retourner au Yémen et de pouvoir reverser au Yémen quand la situation politique le permettra, de restituer au Yémen cette richesse, ce patrimoine oral dont elle s'est fait porteuse. Et nous, on a la chance en France d'avoir pu lui donner, lui faire un accueil, mais elle-même nous offre aussi cette...
C'est ça, moi j'ai envie de dire, c'est quand même de l'intérêt, ce qu'on oublie un peu, hein, de l'intérêt pour le pays d'accueil. Aussi d'avoir d'un seul coup cette communauté de chercheurs, Mohamed, qui arrive ici en France. On n'y pense pas, hein, on pense accueil, pauvres chercheurs en exil. Bon, tant mieux pour nous, quelque part, que vous soyez là, Mohamed.
Tout à fait. Non, merci pour l'accueil. Et je veux dire, rebondir là-dessus, c'est que quand je pose la question par rapport au retour des personnes, est-ce que c'est souhaité ou pas, mais à 99%, les gens, ils souhaiteraient retourner en Syrie. Mais une fois, la situation le permettra, c'est ça. Mais aussi, une autre chose, j'aimerais bien aussi vous le dire, par rapport aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, souvent toujours liées au travail. Hein, moi, je connais pas mal de médecins qui ont déjà déposé un dossier auprès du ministère de la Santé. Ça fait plus d'un an, je crois. Hein, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu l'autorisation de travailler. Et ils le vivent très mal. Et d'autres, peut-être qu'ils ne sont pas médecins, mais vraiment par rapport aux difficultés qui sont les leurs en France, ils pensent au retour, dès maintenant. Donc vraiment, ils n'ont pas réussi à s'intégrer, hein, ils n'ont pas trouvé de travail. Et puis ils ont du mal, à se faire au mode de vie, au rythme de la vie à la française. Parce que bon, c'est un exil, je vous le dis, parce que bon, je le vis. Je l'ai vécu, je vais dire, trois fois, hein, à peu près. En Syrie, en Turquie, aujourd'hui en France. Voilà. Mais bon, je connais la France, je parle la langue, j'ai des amis, j'ai des connaissances, etc. C'est pas pareil, peut-être. Mais eux, ils viennent là, ils débarquent. Donc je suis là, je donne un coup de main. Parfois, ils m'appellent pour parler. Ils veulent vraiment être écoutés. Mais de quelqu'un qui sache écouter et puis qui sache répondre aussi. J'ai fait ce qu'on appelle aussi de l'accompagnement psychologique, si j'ose dire. Je suis pas psychologue, mais vraiment, j'ai essayé aussi de calmer un petit peu les esprits, parfois. Donc il y a eu pas beaucoup de problèmes aussi familiaux. Hein. J'intervenais quand je pouvais, les gens m'écoutaient. Voilà, tout cela à mon avis donc, par rapport aux difficultés auxquelles les gens sont confrontés.
Et aux difficultés aussi, alors du coup pour un programme pareil, parce qu'il faudrait presque, enfin, ce qu'il faudrait c'est un accompagnement véritablement personnalisé pour chacun. Vous essayez de faire ça d'ailleurs, Laura Loyac, mais à la fois pour arriver à trouver la bonne université qui peut correspondre aux chercheurs. Enfin c'est vraiment, on se rend compte que ça soulève énormément de questions, parce que c'est de l'urgence, mais dans la durée. Et de l'urgence qui permettrait de retourner. Et de l'urgence qui permettrait de continuer ses recherches.
Exactement. Et c'est du reste toute cette dimension dont on a pris conscience et qu'on essaie de développer aujourd'hui au terme d'un an d'existence du programme, et y compris un accompagnement effectivement parfois psychologique. Alors nous, notre objectif, c'est aussi aider les établissements qui accueillent ces chercheurs.
Donc les établissements universitaires.
Voilà, parce que les personnels de ces établissements sont en contact avec des gens qui ont des parcours qui les distinguent totalement des publics, si j'ose dire, habituels des établissements. Mais l'objectif du programme, effectivement, au-delà de tout cela, c'est aussi à long terme de participer à ce changement des représentations. Comme on le disait, c'est-à-dire que les chercheurs, certes, on les accueille, mais c'est eux qui nous apportent. Et c'est, je pense, l'objectif l'ambition qu'on a de participer à cet autre regard qui peut se construire grâce à l'arrivée de ces chercheurs qui irriguent les établissements et leur apportent beaucoup.
Autre chercheur, autre recherche aussi, il y aura Israël. C'est vrai que c'est une richesse considérable pour nous aussi, pour la science en général, hein, de manière, même si on ne parle pas du point de vue humain.
Bien sûr, les Américains, avec les Nord-Américains, avec leur état d'esprit pragmatique, ont d'ailleurs fait des études économiques pour mesurer le gain en croissance économique qui avait été dû aux immigrés pendant la Seconde Guerre mondiale, scientifiques venant d'Europe. Ils ont montré que, notamment en termes de dépôt de brevets, c'était une proportion considérable qui avait été déposée, et donc ça avait vraiment contribué à la richesse économique des États-Unis d'après-guerre. Donc effectivement, on pourrait même mesurer l'apport que cela représente. Après, en termes de difficultés, effectivement, je crois que c'est au niveau des établissements que cela se traite aussi. On a des formes de solidarité extraordinaires au
niveau, dans les universités, dans les établissements de recherche,
au niveau des chercheurs, dans les équipes. À l'école des hautes études en sciences sociales, c'est vrai qu'on a mis en place des programmes de français, hein, pour les aider. On travaille aussi avec l'Alliance française.
Il y a une solidarité, voilà, vraiment, il y a une solidarité entre chercheurs.
Et puis il y a des dispositifs qui sont mis en place par les établissements et qui permettent d'accompagner effectivement, et aussi de réfléchir plus généralement à ce que ça veut dire effectivement d'accueillir des collègues, des chercheurs étrangers, de réfléchir aux situations de précarité sociale qui concernent plus généralement, malheureusement, nos étudiants. Et donc, ça nous apprend beaucoup et ça aide aussi les institutions à progresser sur ces questions.
Dans tous les domaines et interdisciplinaires, oui, Laura Loeux, moi je voulais vous relancer sur l'ouverture maintenant de pause. Vous pensez même peut-être à intégrer d'autres intellectuels, d'autres artistes dans ce programme?
Oui, alors pour revenir juste d'un mot sur les solidarités, c'est des solidarités au niveau national, mais aussi il faut souligner solidarité au niveau international, parce qu'on travaille en lien étroit avec les autres programmes américains, allemands, britanniques, et en particulier les américains, puisque dans le contexte actuel, avec les décrets Trump qui mettent sur liste noire des pays dont sont originaires nombre de chercheurs en situation de danger par définition, nos collègues des programmes américains nous sollicitent pour trouver des débouchés en France pour ces chercheurs. Donc c'est, voilà, l'idée, c'est
on peut toujours devenir un réfugié quelque part, sans, même si on ne s'y attend pas. Hein.
Exactement,
on accueille aujourd'hui
Mohamed, et c'est vraiment ça. Pour ce qui concerne l'ouverture, oui, là on est en train de réfléchir à une ouverture du programme au monde de la culture. Le ministère de la Culture avait rejoint le programme l'année dernière, donc les établissements qui dépendent du ministère de la Culture peuvent présenter des candidatures, mais l'idée là c'est d'élargir davantage aux professionnels, éventuellement aux artistes. On est en train de lancer la réflexion.
Élargissons sur RFI avec cet extraordinaire flûtiste soudanais Gandhi Adam, soutenu par l'atelier des artistes en exil. Le morceau s'appelle Jabana et ça fait vraiment du bien. Par où ça passe, Gandhi Adam sur RFI.
Sur internet www.rfi.fr.
Gandhi Adam, extraordinaire flûtiste soudanais soutenu par l'atelier des artistes en exil. Autour de la question de l'accueil des scientifiques forcés à l'exil, qu'en est-il du côté des étudiants justement? Écoutez l'éclairage d'Annick Suzor-Weiner, elle est professeure émérite chargée à l'Association universitaire de la francophonie, l'AUF, d'un projet concernant les étudiants réfugiés. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment les soutenir? Annick Suzor-Weiner au micro de Raphaël Constant.
En priorité, ce sont des Syriens, ensuite viennent des Afghans, des Irakiens et des Soudanais. Puis, tout un tas de nationalités, 32 en tout, mais représentées par des effectifs moins importants. Et puis, nous savons tous qu'il y aura un autre style de migration auquel les établissements doivent pouvoir répondre. Parce que je crois sincèrement que tous ceux qu'on peut sortir, je dirais, vers le haut par des études, pas forcément de longues études, hein, ça peut être, les IUT sont très à la manœuvre. Mais il y a aussi des gens qui préparent des masters, voire des thèses. L'autre aspect, et que nous pensons aussi à leur éventuel retour. Un certain pourcentage rentrera chez eux quand les choses iront mieux, sur un plan économique ou politique. Et ceux-là, nous serons fiers de les avoir formés pour aider leur pays. Et il peut y avoir aussi, bien sûr, des retours vers la France au niveau des décisions économiques de ces pays.
Qui veut réagir à cet éclairage sur les étudiants? Il y aura Israël?
Oui, alors effectivement, la question des étudiants, elle s'est posée rapidement. À l'EHESS, elle s'est posée en fait par une conférence qu'on avait organisée, rendez-vous de crise en novembre 2015, où des collègues qui étaient impliqués sur la question des réfugiés nous ont dit, bah, écoutez, il y a plein d'étudiants hein, parmi ceux qui sont dans les campements à l'époque à Paris. Et on les a fait venir, ces étudiants, on les a écoutés, enfin ces anciens étudiants, et on s'est rendu compte effectivement que c'était des enfants des classes moyennes qui avaient été jetés sur les routes aussi du fait des crises, mais aussi du fait de leur engagement politique. C'était en l'occurrence des gens qui avaient fait des masters, etc., et qui effectivement avaient envie de renouer aussi avec la dimension intellectuelle de leur vie, malgré leur très grande précarité. Et donc c'est comme ça que, comme d'autres établissements, on a décidé d'essayer de les accueillir et de créer les moyens aussi administratifs, hein, grâce à l'aide des personnels administratifs qui ont dû changer leur routine pour pouvoir les inscrire en dehors des périodes, etc. Et pour construire des programmes qui essayent autant que possible de les réinsérer dans le monde des idées, qui est aussi important pour eux. Et aussi de effectivement bénéficier de leur savoir, de leur réflexion, des traditions de recherche dont ils viennent, qui parfois restent mal connues en France et qui enrichissent notamment dans les sciences humaines et sociales évidemment nos connaissances de ces pays et de la richesse de leur culture et de leur histoire.
Les questions qui se posent là ne sont pas les mêmes puisqu'il s'agit de jeunes étudiants. Elles ne sont pas les mêmes non plus, mais elles s'inscrivent aussi dans la durée, dans la perspective. Effectivement, soit de retourner ensuite au pays une fois que la situation se sera calmée, mais dans la durée, parce qu'ils sont jeunes, tous ces étudiants, Mohamed.
Alors, de ce côté-là, quand même, j'aimerais dire une chose. Du point de vue politique, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas vraiment savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va se régler.
Chez vous, en Syrie.
Voilà. Je parle de la Syrie notamment. Oui, bien sûr. Mais quant à la prise en charge des étudiants réfugiés, si vous voulez, hein, le terme, il est parfois plurivoque, enfin, polysémique, ça dépend.
Absolument.
J'aimerais bien rappeler aussi que la région d'Occitanie avait accueilli, ils ont été cherchés jusqu'en Jordanie, des étudiants syriens, une vingtaine d'étudiants l'année dernière. Donc ils ont été distribués donc, entre Toulouse et Montpellier. Enfin, de notre côté, à Paul-Valéry, on en a reçu 10. Ils ont été bien accueillis, pris en charge. Donc ça fait un an qu'ils apprennent le français, ils progressent. N'empêche pas, à côté, il y a des petits soucis administratifs surtout. Hein. Et puis voilà, toujours en termes d'intégration. Alors il fallait vraiment les accompagner, leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis petit à petit, je pense vraiment qu'ils commencent à s'y faire. Mais c'est vrai que c'est un grand défi, c'est un grand enjeu, c'est un enjeu majeur là-dessus.
C'est voilà. Un défi majeur, Laura, à la fois pour ce programme PAUSE, que de devoir penser véritablement sur la durée, parce qu'on est dans l'urgence sur la durée. Et on a bien compris que c'était nécessaire, essentiel pour tout le monde, hein, pour tous ces intellectuels, chercheurs, jeunes ou moins jeunes, qui sont forcés à l'exil, comme pour nous, parce que c'est, voilà, ça apporte une richesse extraordinaire, ça renoue avec une tradition française qu'on espère ne pas oublier, mais ça pose des questions considérables. Comment gérer l'urgence sur la durée ?
C'est une question effectivement qui est, j'allais dire, qui n'a pas de réponse.
Mais oui.
Elle n'a que des tentatives de solutions qui sont imparfaites, pour certains satisfaisantes.
Qu'est-ce qu'il vous faudrait au programme Pause ?
Idéalement, des moyens. Alors les moyens financiers, on a la chance maintenant, grâce aux différents financements, que ce soit européens, de privés aussi, il faut le dire. Hein. Il y a des fondations d'entreprises, la fondation Michelin par exemple, qui participent, qui contribuent au programme. La générosité du public, donc l'argent effectivement est importante. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui accorde un financement aussi très, très substantiel et pérenne. Donc sur la, j'allais dire, moyen terme, en termes de financement, on a une relativement bonne assise financière. Maintenant, on va essayer justement d'utiliser bien cet argent, de mettre en place tous ces accompagnements auxquels on a réfléchi, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'insertion professionnelle, sur l'accompagnement des établissements.
Et vous faites régulièrement, on ne l'a pas dit, hein, des appels d'offres pour des chercheurs qui sont forcés à l'exil. Vous allez aussi parfois les chercher sur place, aider à les exfiltrer, mais vous faites régulièrement des appels d'offres.
Alors effectivement, là on a eu depuis le début du programme 5 appels à candidature. Ça marche effectivement par session, donc on fait un appel à candidature. Les établissements présentent des dossiers de candidature qui sont évalués par des membres du comité de parrainage dont l'IORA. Et à l'issue de ce processus, donc des soutiens financiers sont accordés aux établissements. Donc on en a eu pour l'instant 5.
Pour accueillir ces chercheurs, quand vous dites évaluer, ils sont évalués scientifiquement et ils sont évalués aussi sur les dangers qui les menacent.
Exactement, hein, ce sont les deux principaux critères, donc l'urgence dans laquelle ils sont, la menace à laquelle ils sont confrontés, et évidemment, bien sûr, la qualité scientifique, parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer, si j'ose dire, le sixième appel à candidature, puisque l'échéance est le 25 septembre prochain. Donc là, je lance un appel aux établissements qu'on a besoin de leur mobilisation.
Qui pourraient employer ces chercheurs.
Voilà, on a beaucoup de candidats. Et donc, il faut, puisque comme je le disais, c'est un programme qui nécessite un cofinancement, le programme PAUSE ne peut exister sans les établissements.
Donc appel aux établissements, appel aussi peut-être à des étudiants, à des chercheurs, qui sont dans d'autres parties du monde que la Syrie, la Turquie, dont on a parlé du Soudan, vous avez je crois un lauréat d'Afghanistan, oui, mais vous avez je crois aussi un lauréat du Burundi, donc
Venezuela, oui, effectivement.
Venezuela, qui malheureusement rentre aussi dans la boucle.
Exactement. Malheureusement, effectivement, le champ géographique est très ouvert, puisque le programme PAUSE reflète d'une certaine manière les bouleversements du monde, que ce soit des bouleversements géopolitiques ou politique. Évidemment, le programme est ouvert à des chercheurs de toute origine, de toute discipline, qui sont confrontés à la guerre, à la persécution.
Voilà qui est dit. Mohamad, le mot de la fin, peut-être ?
Je dis à la fin que l'humanisme n'a pas de limite. Et j'aimerais vraiment qu'on reste toujours humaniste et qu'on a du respect pour l'autre, pour l'accueillir.
Merci pour ces paroles. Merci infiniment d'être venu en direct partager vos expériences. Merci Mohamad, merci Liora, merci Laura. Sur ce programme PAUSE, donc d'accueil en urgence aux scientifiques forcés à l'exil, le lien est bien sûr sur notre page. Et je propose que nous faisions un point régulier ensemble. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Et vous nous ferez partager vos recherches, hein, Mohamad Asladan, avec les réfugiés syriens. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, l'heure avance très vite. Merci à Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.